Chin, Dieu, Hémoni, la grand-mère. Donc, trois dieux font la forme de grand-mère.
D'accord. Donc, en fait, à ce que j'ai compris, c'est un esprit qu'on va prier pour obtenir une descendance, car c'est elle qui décide, qui décide, je ne sais pas si on l'a pris toujours, du nombre de bébés que pourrait avoir un couple.
Exactement.
Alors, cet esprit protégeait aussi les femmes lors de l'accouchement, et leur permettant ainsi un accouchement facile et un rétablissement rapide. Et de plus, dans les croyances populaires, cet esprit protégeait l'enfant durant ses premiers mois de vie.
Et d'après la légende, Samshin Halmoni était aussi l'enfant à naître en le frappant sur les fesses pour le faire sortir plus vite du ventre de sa maman.
Ah, oui, bah oui, d'accord. Alors, ça explique donc la fameuse tache de naissance bleu foncé que les Coréens ont au bas du dos ou sur les fesses.
Oui, voilà. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la tache mongolique. C'est la tache de l'hérédité mongole.
Pour avoir des enfants, on pouvait aussi prier et faire des offrandes à la grande ours, aux esprits de la montagne et à Bouddha.
Oui, et même à certaines roches et arbres considérés comme sacrés, en fait.
D'ailleurs, selon le mythe de la fondation de la Corée, une offrande a été faite par la mère de Tangun, le fondateur de la Corée, sous un grand arbre avant sa naissance.
Mais on priait surtout Samshin Halmoni et tous les autres pour avoir une descendance mâle, car la prospérité était jugée par le nombre de rejetons mâles dans une famille et l'absence d'un enfant de sexe masculin était un motif de divorce. C'est pourquoi d'ailleurs les Coréens faisaient et font encore très attention à leurs rêves, car par leur interprétation, le futur bébé s'annonce et se présente et va donner son sexe.
Oui, ce sont des témoins.
Ni les rêves de bébé.
Alors, si une future mère rêve de chevaux, de bœufs, de dragons, de tigres, d'ours ou d'autres animaux de grande taille, elle aura
un fils.
Voilà. Et par contre, si elle rêve de fleurs ou de cuillères, ce sera
une fille.
Voilà.
Mais pourquoi vouloir un garçon? Parce que bon, les filles, ça cuisine mieux pourtant.
De par le confucianisme, en fait, la société coréenne a longtemps favorisé les descendances mâles. Donc les filles ont toujours été considérées comme indispensables pour préserver le nom de la famille, pour aider les parents les plus âgés, donc pour faire les rites ancestraux. Tandis que les filles n'ont jamais eu cette importance puisqu'elles sont appelées à quitter leur famille quand elles se marient.
D'ailleurs, on m'avait même dit, moi, que comme j'ai deux enfants, j'ai une fille aînée et un fils, on m'avait dit que c'était la famille idéale, parce qu'en fait, la fille aînée, comme ça, peut s'occuper du petit frère.
Très bon.
Voilà, qui, lui, bien sûr, a le rôle important dans la famille.
Alors, dans la société coréenne, l'enfant appartenait à la famille du père.
Exact, oui. Il appartenait donc à la famille du père, parce que depuis... Mais ça a changé, ça. Parce que depuis quelques années, les droits et les devoirs de la famille et bien maternelle, et bien, ils ont été enfin reconnus. Avec justement l'évolution du livre, du registre familial.
Voilà. C'est-à-dire qu'avant, l'enfant donc appartenait vraiment au père. C'était vraiment... Et maintenant, la famille maternelle peut aussi revendiquer... S'il y a un problème entre les parents, peut demander à avoir la garde aussi de l'enfant, ce qui ne se faisait pas avant. Donc ça change, la société change, mais quand même doucement encore. Hein. L'idéal pour les Sud-Coréens est d'avoir un seul enfant, parce que comme on a dit dans différentes émissions précédentes, ça coûte cher. Et l'éducation d'un enfant coûte très cher. Donc avoir un enfant, c'est suffisant. Et donc, beaucoup de couples s'arrêtent à un seul bébé quand c'est un garçon. Sinon, quelquefois, ils essaient encore pour avoir un garçon, un second enfant.
Et ça change aussi.
Voilà, les dernières statistiques qui datent de ce mois-ci montrent que les Coréens ont changé leurs préférences et maintenant ils préfèrent les filles.
Ah oui,
ça vient, c'est tout neuf. Ça a fait la une des journaux, justement, parce qu'on n'avait jamais vu ça.
Ça fait quelque chose comme ça.
Parce que depuis quelques temps aussi, les Coréens se sont aperçus que les filles aidaient aussi les personnes âgées et qu'elles commençaient aussi donc à réintégrer, entre guillemets...
Et elles font mieux la cuisine.
En plus.
On dit souvent que si on a une fille... On a le droit d'aller à l'étranger. Par contre, si on n'a qu'un seul fils, on se contentera d'aller comme ça rien qu'à l'île de Jeju, au sud de la péninsule. Donc la fille peut offrir de l'argent à ses parents pour qu'ils voyagent à l'étranger, tandis que le garçon, non. C'est rien qu'à l'île de Jeju, donc du territoire toujours comme ça, coréen.
D'accord. Mais en tout cas, il y a quand même plus encore de naissances garçons que de naissances filles en Corée.
Il y a la disparité encore.
Oui, encore beaucoup de disparités.
Et donc, ce qui signifie que lorsque ces enfants deviendront adultes, il n'y aura pas assez de femmes en Corée pour former des couples. Mmh. Alors, je ne pense pas qu'il y ait encore des avortements à cause du sexe, comme c'était le cas il y a quelques années. Et d'ailleurs, pour pallier à cela, le gouvernement avait d'ailleurs pris deux mesures. Interdire les IVG, les interruptions volontaires de grossesse, sauf cas exceptionnels, et interdire aux médecins de révéler le sexe de l'enfant.
Maintenant, on peut le savoir à partir de la 28e semaine de grossesse.
Oui, et d'ailleurs, quand on est française en Corée, c'est très frustrant de devoir attendre et que personne ne puisse vous révéler le sexe de l'enfant à partir du 3e mois, comme c'est le cas en France, et qu'on vous demande d'attendre parce que les médecins ne le disent pas.
Mais pourquoi on doit être si frustré? Attendre, c'est une des vertus. Mais les Français sont
C'est comme ça qu'on fait tes grands-parents?
Oui, mais bon, je sais pas, quand on a envie de savoir...
Ce serait bien, le secret se dévoile après une période...
Non, mais c'est bien de savoir le sexe du bébé avant la naissance, c'est tout simplement pour acheter les vêtements. Bon, c'est
mais
vrai que si
même,
on habille un garçon
on a le temps
rose,
de préparer le vêtement, quelque chose qu'il lui faut, non?
Ça dépend, un mois avant, c'est court après, hein, pour peindre toute la chambre.
Oui,
c'est pour ça qu'on l'a maintenant, on l'a peint plutôt dans les jaunes, comme ça, ça passe pour les filles et les garçons.
C'est neutre,
c'est vert, c'est bien aussi.
Mais en tout cas, il y a certains docteurs qui donnaient des indices, en fait, en disant « Oh, il va falloir acheter des petits vêtements roses, etc. »
Il ne faut pas s'y fier, hein, parce que c'est pas le cas.
Ah oui?
Quand j'étais en grossesse, comme ça, pour mon premier jour, j'avais quelques problèmes. À ce moment-là, j'étais hospitalisée. Alors, ma gynécologue m'a fait allusion en disant que, bon, vous voudriez comme ça acheter quelque chose rouge ou bien rose. Cela dit que ce sera une fille.
Donc toi, tu étais toute contente, t'as acheté des petites roses.
Même, on a déjà désigné le nom de mon bébé. Comme le prénom d'une fille.
D'accord.
Mais finalement, c'était le contraire.
Ça peut être rigolo si le gynécologue n'aime pas la patiente et lui fait un mauvais tour. Parce que de toute façon, on n'a pas le droit de dire, donc on ne peut pas se venir se plaindre après.
En fait, ce qui est frustrant aussi, c'est qu'en Corée, on fait énormément d'échographies. Donc on se dit, mais ils le savent, ils le voient, ils pourraient nous le dire. Et en fait, on en fait tellement. C'est, en France, il y a 3 échographies. Et en Corée, c'est une toutes les 6 semaines. Puis une tous les mois, puis une tous les 15 jours, et enfin une toutes les semaines lors du dernier mois.
Oui, et ça coûte cher.
Ah oui.
Tu as suivi ces règles?
Oui.
Ah oui, mais moi aussi, hein, enfin je veux dire, moi,
aussi ben,
pour mon fils, on a effectivement dû aller souvent chez le médecin. Pour tout. Et tout,
si on y irait là.
D'un autre côté, tu as envie de savoir si tout va bien. Et puis quand on te donne un rendez-vous, quand ton médecin dit, bah, écoutez, on se revoit dans un mois pour voir si, comment va le bébé, etc., faire un monitoring, etc.
On y va. Sans photo, on y va. Hein.
Voilà. Donc il y a un petit peu, mais c'est horriblement cher. Et dans la mesure où en Corée, on fait l'avance, enfin... En tant qu'expatrié, on fait l'avance avant de se faire rembourser.
Alors, dis-moi, tu parlais des IVG en disant que c'est interdit en Corée.
Ah oui, alors c'est officiellement interdit depuis 1953, mais c'était jusqu'au début du mois officieusement pratiqué. En fait, les cliniques ont poché jusqu'à 500 euros pour cet acte, qui n'est ni par la sécurité sociale coréenne, ni par les assurances d'ailleurs. Un gros problème de natalité actuellement.
Et oui, puisqu'elle a le plus faible indice de fécondité au monde.
4,53 enfants par femme en 1970 et 1,08 en 2009.
Alors, si les couples ne se décident pas à faire plus d'enfants d'ici 2050, le pays pourrait perdre environ 13,13% de sa population. C'est pourquoi le gouvernement insiste sur le fait que l'interdiction de se faire avorter fera dorénavant l'objet d'une stricte application. Et les médecins pratiquant l'IVG en cours de 2 ans de prison et le retrait de leur droit d'exercer. Alors, mais l'avortement touche un autre tabou de la société coréenne, celui des mères célibataires. Donc, selon le ministère de la Santé, 85% qui ne sont pas mariés choisiraient l'avortement pour ne pas être reniés de leur propre famille, en fait.
De la société.
Voilà. Exemple aussi, les lycéennes enceintes peuvent être envoyées de leur établissement et forcées donc d'arrêter leurs études car elles offrent une image contraire à la morale et elles doivent avoir souvent recours à la commission des droits de l'homme pour pouvoir réintégrer leur lycée.
D'ailleurs aussi, il est très difficile, ça a été amélioré heureusement, mais jusqu'à peu de temps, il était très difficile pour une mère seule. D'inscrire son enfant à une école, que ce soit divorcée, veuve, etc. Enfin, veuve, c'était plus facile, mais divorcée, ça devenait très compliqué. Donc, une mère seule, c'était pratiquement impossible d'inscrire son enfant à l'école parce qu'il fallait les papiers du père qui n'existaient pas ou qui n'était pas là en raison du divorce. Et donc, administrativement, c'était impossible d'inscrire l'enfant à l'école ou à d'autres prestations sociales.
Voilà, et c'est pour ça que les femmes, souvent, avant de se retrouver dans des situations comme ça, ou soit pour les lycéennes de devoir arrêter leurs études, ou pour les femmes célibataires de rentrer dans un cercle infernal de paupérisation, en fait, vont plutôt choisir l'avortement, et même si c'est illégal, ou elles vont aller à l'étranger se faire avorter si jamais elles ne trouvent personne.
Heureusement, il y a de plus en plus d'établissements qui peuvent accueillir ces lycéennes enceintes.
Oui, bien sûr. Et puis il y a la commission aussi dont je parlais tout à l'heure qui les soutient et qui oblige leur réintégration naturellement.
Alors explique-nous comment ça se passe quand le bébé est là.
Oui, parce qu'on parle d'IVG, c'est par les bébés quand même.
Voilà.
Alors, par le passé, on a parlé il y a longtemps, très très longtemps. Lors de la naissance d'un enfant, une corde de paille était accrochée sur la porte de la maison.
On l'appelle le
pour effrayer les mauvais esprits.
Et pour annoncer aussi le sexe de l'enfant avec des tapis marrons pour les garçons. Ça suffit parce qu'il n'y a de sexe, donc s'il n'y a pas de piment sur ce...
Et en cas de jumeaux ou de faux jumeaux.
C'est tout comme
moi.
Je pense pas, hein.
Non.
Bon, ça n'existe plus maintenant, cette tradition.
D'accord. Et alors, pendant 7 jours après l'accouchement, le riz et la soupe aux algues sont dont on parlait tout à l'heure, cet esprit. Et ces aliments sont ensuite consommés par la mère pour l'aider à se rétablir.
Toujours consommés.
Toujours consommés. Mais est-ce qu'on continue à les offrir à Samson Almoni?
Je crois non.
D'accord. Alors, il faut savoir aussi que la famille ne faisait aucun commentaire sur la beauté ou la santé de l'enfant pour ne pas énerver les parents qui pourraient faire du mal ensuite à l'enfant. Est-ce que ça continue à se faire?
Non.
À une époque, on donnait même un nom péjoratif à l'enfant, on pouvait l'appeler crotte de chien, etc. Pendant une certaine période, pour faire croire aux esprits qu'on ne s'intéressait pas à l'enfant, et donc pour éviter que les esprits s'y intéressent aussi, puisque et c'est ensuite après qu'on donnait son vrai nom à l'enfant.
Un enfant comme ça, inscrit dans le registre, s'appelait.
D'accord.
Donc qu'est-ce qui reste de toutes ces informations maintenant à Séoul?
Oula, plus grand chose, je crois. Mais en tout cas, actuellement, après l'accouchement, les femmes vont avec leurs nourrissons dans des centres spéciaux, des soupes d'algues, quand même, et où on leur apprend surtout à s'occuper d'un bébé. Alors, les hôpitaux nous apprennent à rien, pas même à donner le bain. Donc, moi, je me suis retrouvée avec ma fille. Qu'est-ce que je fais?
Ils apprennent l'allaitement, quand même.
Ouais, mais c'est assez rapide, parce que... Puisque faut compter quand même qu'on reste à l'hôpital environ 48 heures pour un accouchement par voie naturelle et 5 jours pour une césarienne. Donc les bases de l'allaitement, oui, sont apprises, mais après c'est vrai que quand on se retrouve avec un petit nourrisson qui a 48 heures et qu'on rentre à la maison et qu'on est là, surtout quand c'est le premier, on se dit
Surtout qu'on a la facture parce que les 48 heures, c'est court mais c'est cher.
Oui aussi, parce que là, ça dépend de ce que tu prends aussi comme service aussi. Par exemple, si tu prends une VIP room qui domine, tu vas payer naturellement beaucoup plus cher que si tu décides d'aller dans une chambre avec 5 personnes.
C'était ta dernière émission, à notre grand, grand regret.
Eh oui.
Eh oui.
D'ailleurs, tu avais commencé, si je me souviens bien, sur, là, sur la maternité. Bah, tu vois, t'as bouclé la boucle.
Voilà.
Oui, mais je rassure nos auditeurs, vous pourrez entendre de temps en temps Héloïse sur les ondes de KBS World Radio.
Oui, parce qu'on ne se débarrasse pas de moi aussi facilement.
Et quand on aura essayé.
Il a essayé tout.
Et Héloïse, je te remercie de nous avoir appris pas mal de choses. Oh. Et surtout, on était enchantés par ton dynamisme.
Youpi.
Et c'était très sympa d'être là. À la semaine prochaine, et c'est Eva Zoun qui va te remplacer. Elle pleure pas.
Non, je vais essayer de retenir mes mains, mais c'est Stéphane qui me fait, qui sort les Kleenex là depuis tout à l'heure. Il est tout ému.
Elle pleure vraiment, hein. Mais les larmes aux yeux.
J'ai les larmes aux yeux, mais Yann aussi, donc ça va. Je me sens pas assez seule.
Dis donc, il faut colorer cette édition, sinon ce studio sera en larmes. Merci et bonne chance et à très bientôt.
À très très bientôt.
À la prochaine.
Retrouvez toute l'actualité de toute la Corée sur notre site internet http://world.kbs.co.kr/french.